Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par le médicament hospitalier. On parle souvent du médicament en général, mais les particularités du médicament hospitalier et du rôle très important des pharmaciens hospitaliers est rarement mis en lumière. Qui s'est déjà rendu au comptoir d'une pharmacie hospitalière ? Bien peu de personnes. Et pourtant, tous ceux qui ont un jour été hospitalisés ont eu affaire à des produits de santé préparés par une pharmacie hospitalière. En effet, dans chaque service d'un hôpital, le médicament n'est pas seulement acheminé. Il est fabriqué, contrôlé, délivré, transporté et scrupuleusement évalué, contrairement à la pharmacie de ville, qui répond à des prescriptions simples et aux demandes d'automédication. La pharmacie hospitalière gère des préparations complexes, sur mesure, adaptées à chaque patient et à chaque service. C'est par exemple le cas des anticancéreux, des radiopharmaceutiques ou des médicaments utilisés dans le cadre des thérapies innovantes qui font l'objet de préparations magistrales, c'est-à-dire sur mesure. Les pharmaciens hospitaliers sont également impliqués dans les essais cliniques, la recherche pharmacothérapeutique, et ils peuvent participer aux réunions de concertation pluridisciplinaires où se discute le choix des traitements pour chaque patient. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils gèrent aussi la distribution de matériel médical implantable, comme les simulateurs cardiaques ou cérébraux, les pompes à insuline, les prothèses de hanche, les implants mammaires. Ils assurent la stérilisation des instruments utilisés en bloc opératoire. Et ils sont responsables des gaz médicaux essentiels au traitement anesthésique et respiratoire. Les différentes activités de la pharmacie hospitalière sont au cœur du soin et elles posent d'importantes questions. Comment garantir l'accès au traitement dans un contexte de pénurie de médicaments ? Que faire face aux effets secondaires qui affectent la qualité de vie des patients ? Comment équilibrer la sécurité du médicament et la recherche d'innovation ? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Bourdoncle, qui est praticien hospitalier, pharmacien gérant au centre hospitalier de Condom, Philippe Sestac, qui est pharmacien hospitalier, chef du pôle pharmacie au centre hospitalier universitaire de Toulouse et professeur de pharmacie clinique à la faculté de pharmacie de Toulouse, et Frédéric Évrard, qui est pharmacien hospitalier au sein du pôle pharmacie au CHU de Toulouse. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Alors ma première question, pour que nous nous représentons bien votre environnement d'exercice et pour comprendre précisément ce qu'est une pharmacie hospitalière, c'est qu'on trouve des pharmaciens, mais également des préparateurs, des techniciens, des administratifs. Pourriez-vous expliquer comment s'organise le travail dans une pharmacie hospitalière ?
Donc en effet, le travail en pharmacie hospitalière est un travail d'équipe. C'est le pharmacien gérant accompagné d'un ou plusieurs pharmaciens adjoints qui va organiser le travail. Donc principalement, on est accompagné de préparateurs en pharmacie hospitalière. Mmh. Qui sont sous l'autorité technique du pharmacien. Donc en effet, on est tenu en fait en tant que pharmacien de surveiller attentivement l'exécution des actes professionnels puisque c'est notre responsabilité qui est engagée et notamment notre responsabilité pénale. Et donc les pharmacies hospitalières, pour fonctionner sur leurs horaires d'ouverture, doivent avoir en présentiel au moins un pharmacien. C'est ensuite le pharmacien gérant qui va définir les modalités de travail en équipe et l'organisation des activités pour remplir les missions qui nous sont confiées, donc c'est-à-dire répondre aux besoins pharmaceutiques des services de soins et des patients. Donc forcément, on va avoir des spécificités à partir de chaque pharmacie hospitalière, puisque les activités des établissements de santé vont différer. Alors, on n'a pas les mêmes activités de soins dans un centre hospitalier universitaire que dans un centre de plus petite taille.
D'accord.
Donc finalement, les pharmacies hospitalières vont remplir des missions qui sont obligatoires, donc communes à toutes les pharmacies hospitalières, comme l'approvisionnement, la dispensation de produits de santé. Et puis, on va avoir d'autres activités plus à risque qui vont être optionnelles. Donc, par exemple, la préparation de médicaments radiopharmaceutiques. Oui. Et là, on va avoir besoin d'autorisation d'activités particulières. Donc, il y a un contexte réglementaire qui est très strict et ce sont les agences régionales de santé qui vont nous donner ces autorisations d'activités. qualité. Mmh. Donc globalement, en gros, dans les établissements de santé de taille modérée, on va avoir un travail qui est très polyvalent avec des équipes qui peuvent participer à plusieurs activités. Et puis dans les centres hospitaliers universitaires, on va avoir des équipes beaucoup plus spécialisées.
Oui, donc ce qu'on peut dire, c'est effectivement, comme vient de le préciser Marion, il y a des activités obligatoires. Tout le processus finalement d'approvisionnement du médicament et jusqu'à la dispensation dans les unités de soins. Donc ça, toutes les pharmacies à usage intérieur, en fait, ont cette activité. Oui. Et puis ensuite, il y a des activités plus spécialisées, les chimiothérapies, la stérilisation, voilà. Tout ceci sont des activités qui sont potentiellement déployables dans les plus grandes PEI. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir en termes d'actualité, c'est que on est en pharmacie hospitalière une discipline en tension. Vous entendez souvent parler des problématiques de désertification médicale. La pharmacie hospitalière est aujourd'hui une discipline où il y a 17% de postes qui sont vacants.
Ah, d'accord.
Et donc, aujourd'hui, beaucoup de pharmacies à usage intérieur peuvent être en difficulté sur des territoires, notamment ruraux. Mm-hmm. Et donc, il y a la nécessité parfois de regrouper certaines pharmacies. Actuellement, pour vous donner un exemple, dans notre groupe hospitalier de territoire, on est en train d'enclencher la fusion entre l'APU des hôpitaux de Luchon et des hôpitaux de Saint-Gaudens.
D'accord. Voilà. Donc il y aurait une unique pharmacie hospitalière pour les deux établissements.
Voilà. Et donc ça permet aujourd'hui d'allier plus d'efficacité, d'assurer, de massifier un petit peu les équipes, d'assurer une présence dans les différentes structures, y compris auprès des cliniciens dans les petites structures. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus de pharmacie à usage intérieur, eh bien, c'est l'établissement qui peut être mis à mal. Parce qu'en fait, oui, il y a par définition une activité hyper transversale d'approvisionnement et d'activité médicale. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément dans les éléments d'actualité. Le deuxième élément, c'est que, effectivement, dans la pharmacie hospitalière, il y a aussi une dimension universitaire, c'est-à-dire des acteurs qui vont avoir les triples missions, c'est-à-dire à la fois le soin dont on parle principalement aujourd'hui, mais aussi l'activité de recherche et une activité d'enseignement. Voilà. Donc chez nous, ça peut se déployer dans différentes disciplines, notamment la pharmacie clinique, c'est celle-là dont on va parler le plus. C'est intéressant parce que il y a donc aujourd'hui une optimisation de la prise en charge thérapeutique des patients via cette pharmacie clinique. Et voilà, donc ça consiste en quoi, la pharmacie clinique, pour en dire deux mots? Clinique, ça veut dire au lit du patient. Et donc c'est finalement arriver à analyser les prescriptions, essayer en concertation avec les équipes médicales d'optimiser cette prise en charge, de réduire les effets indésirables, d'essayer d'être plus efficace, et tout ceci au meilleur coût. Voilà, c'est les trois dimensions de la pharmacie clinique. Et aujourd'hui, donc, on forme beaucoup d'acteurs. Et au cours de la dernière décennie, la pharmacie hospitalière a quand même augmenté ses effectifs de façon conséquente dans tous les types de structures, y compris dans les structures de petite et de moyenne taille, où cette activité aujourd'hui est de plus en plus déployée en appui des équipes médicales qui sont parfois en difficulté.
Oui, parce que ce que je disais en introduction, c'est que finalement, votre activité, elle touche autant à donc préparer ce qui va être dans les pharmacies des services, par exemple, que faire des préparations particulières pour un patient. Donc finalement, c'est à tout niveau du médicament à l'intérieur d'un établissement de soins.
Oui, en fait, on a des activités, comme ça a été dit, d'approvisionnement à partir de médicaments qui sont commercialisés par l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, on a des activités de préparation de certains médicaments. C'est vrai pour les chimiothérapies, c'est vrai pour la radiopharmacie, c'est vrai pour la stérilisation. Donc il y a une activité de préparation et il y a une activité tournée vers le soin en appui des équipes cliniques. C'est vraiment, et ça c'est parfois méconnu, cette dichotomie en fait entre des activités de production et des activités cliniques.
Oui, c'est ça.
Et c'est à ce titre-là qu'on participe aux réunions de concertation pluridisciplinaires, les RCP que vous évoquiez, d'autres modalités également de l'éducation thérapeutique du patient. Donc dans des programmes, on va animer certaines séances, soit seul, soit en collaboration avec des infirmiers, des médecins, et donc participer à des activités de pharmacie clinique par ce biais-là.
D'accord, oui, parce que finalement, ce que je disais, c'est à l'intérieur d'une pharmacie hospitalière, il y a plusieurs Vous travaillez avec plusieurs sortes de collaborateurs, mais à l'extérieur, c'est-à-dire à l'intérieur de l'hôpital, vous êtes aussi en lien direct avec les soignants, avec les patients aussi, puisque vous avez aussi un comptoir dans une pharmacie hospitalière. Ça aussi, peut-être qu'on pense aux médicaments reçus dans les services, mais vous avez aussi un comptoir qui est... concernés par ces délivrances au comptoir, quel type de patients? Des patients qui sortent d'une hospitalisation, par exemple?
Ça peut être ce type de patient-là, mais pas forcément. L'activité d'accueil des patients qui sont ambulatoires, ça s'appelle la rétrocession hospitalière, on appelle ça aussi les sessions dans certains établissements. C'est une activité qui est optionnelle, comme le disait Marion. Il y a à peu près 800 établissements en France qui ont l'autorisation de réaliser cette activité d'accueil des patients ambulatoires. Et donc, ils peuvent leur être délivrés des traitements effectivement en transition hôpital-ville.
Oui.
Ça peut être particulièrement certains antibiotiques ou antifongiques. Mais ça peut être aussi des patients qui sont suivis couramment en ville et qui, pour des maladies chroniques, et qui vont venir chercher ces médicaments à la pharmacie hospitalière, soit parce qu'ils n'ont pas le choix, seulement les pharmacies hospitalières sont habilitées à délivrer ces médicaments-là, soit pour certains médicaments, parce qu'il y a un double circuit en ville, pharmacie d'officine et à l'hôpital, et pour des raisons d'anonymat, certains patients préfèrent venir chercher ces médicaments-là à l'hôpital, particulièrement les médicaments dédiés à la prise en charge du VIH ou des hépatites virales.
Mais quand vous disiez donc que toutes les pharmacies hospitalières ne sont pas habilitées à la délivrance de médicaments, ça implique pour certains patients de faire beaucoup de routes, des déplacements assez longs, c'est ça, pour pouvoir se procurer les médicaments nécessaires à leur traitement?
Oui, tout à fait. Il y a un maillage territorial qui est beaucoup plus restreint que ce qu'on peut retrouver avec les pharmacies d'officine. Il y a plus de 20 000 pharmacies en France en comparaison à 800 pharmacies hospitalières. Mmh. Effectivement, on n'est pas du tout au même niveau d'accessibilité des traitements. Donc, pour une partie des patients, comme je vous le disais, ils font le choix de venir chez nous pour des raisons d'anonymat. Certains viennent même d'autres régions volontairement.
Ah oui, d'accord.
Après, pour les autres, c'est effectivement quelque chose qui est plus subi. Mais les contraintes réglementaires sont celles-là. On va être amené à délivrer des médicaments qui sont soit préparés par l'établissement, ça peut être des préparations hospitalières ou magistrales, ou alors des médicaments qui n'ont pas encore d'autorisation de mise sur le marché. On en parlera plus tard, et d'autres médicaments pour lesquels il y a des contraintes spécifiques, soit dans l'approvisionnement, soit des vérifications nécessaires à faire en lien avec la délivrance qui amènent à un circuit de délivrance hospitalier.
Et ce, justement, comme c'est des médicaments parfois très particuliers, ceux que vous délivrez au comptoir de vos pharmacies hospitalières, est-ce que ça implique que vous avez un rapport avec les patients qui... relèverait de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire s'assurer que ces patients, ils ont bien compris comment utiliser le médicament, etc. quoi.
Alors oui, l'éducation thérapeutique, c'est vraiment dans le cadre de programmes qu'on va utiliser cette terminologie. Avec,
oui, oui.
Mais en fait, effectivement, on ne fait pas que délivrer le médicament, on le dispense, et l'acte de dispensation, c'est le fait de le délivrer, mais également d'amener tout le conseil pharmaceutique en lien avec ces médicaments qui sont assez spécifiques, et que parfois, il n'y a qu'un patient en France qui a ce médicament, et donc c'est très peu connu, et donc il y a tout un des conseils spécifiques qu'on va être amené à prodiguer à ces patients-là.
Une partie de l'activité consiste à délivrer des médicaments directement aux patients, mais vous travaillez surtout, c'est ce qu'on disait, au sein de l'hôpital avec d'autres professionnels de santé, des médecins, des paramédicaux. Comment se passent ces collaborations? C'est-à-dire, donc, on a parlé des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, mais vous pouvez aussi, j'imagine, avoir des discussions avec le prescripteur sur la prescription ou sur le choix du traitement, sur peut-être les interactions médicamenteuses, des choses comme ça. Comment ça se passe, ces discussions?
En tant que pharmacien hospitalier, on a effectivement des missions très transversales. Et bien sûr, on est auprès des patients et auprès des soignants et des équipes médicales. Donc en fait, on a plusieurs niveaux d'intervention. Déjà, ce que disait Philippe tout à l'heure, on a des activités de pharmacie clinique qui sont vraiment centrées autour du patient. Donc là, on va pouvoir agir selon différentes modalités. Donc en fonction des organisations, des PUI et en fonction des moyens alloués, on va pouvoir participer aux visites médicales, au staff, au RCP.
Ah oui.
On participe à la validation pharmaceutique des prescriptions médicales. Donc on va vérifier finalement chaque prescription faite par les médecins. Mmh. Et c'est là où finalement on va pouvoir émettre des interventions pharmaceutiques et faire le suivi. Donc là, bien sûr, il faut une bonne communication avec nos collègues médecins. Donc ça va passer soit via des logiciels spécialisés, soit bien sûr le coup de fil ou le passage en physique dans le service en fonction des organisations locales qui sont définies. On va pouvoir aussi participer à d'autres activités de pharmacie clinique qui sont parfois un peu plus organisées et prévues sur certains temps de travail, comme par exemple des revues de pertinence. Voilà, c'est des choses, il y a plusieurs activités possibles. Après, on va aussi travailler autour de pratiques. On va travailler pour évaluer les pratiques professionnelles. Donc, soit avec les médecins en faisant des revues de dossiers sur certaines thématiques, par exemple la réévaluation des antibiotiques, ou alors avec les soignants en utilisant d'autres méthodologies comme les patients traceurs ou les traceurs ciblés. Donc ça, c'est des méthodologies de la Haute Autorité de Santé pour sécuriser les circuits.
J'étais en train de me demander, quand il y a un dossier sur lequel il y a eu un problème, est-ce qu'il est revu après, justement, s'il y a eu un problème d'interaction médicamenteuse ou de réaction, par exemple, à un traitement? Est-ce qu'il est revu ensuite et est-ce que vous êtes associé à cette réflexion?
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs niveaux. En fait, on peut avoir des signalements internes d'événements indésirables, par exemple. Et donc là, en fait, on s'inscrit dans une démarche qualité. Donc, on incite toutes les équipes médicales et soignantes à faire remonter les dysfonctionnements. Et puis, derrière, on fait une analyse commune, multidisciplinaire, pour rechercher des actions d'amélioration sur ce qui n'a pas fonctionné.
En complément par rapport à ce que vient de dire Marion, en fait, dans le domaine de la pharmacie clinique, aujourd'hui, la Société française de pharmacie clinique a établi un lexique des nouvelles missions. Et donc, on a beaucoup parlé de l'activité centrale qui est la dispensation, hein, avec l'analyse pharmaceutique qui doit être systématique pour tous les patients aujourd'hui en France, hein, dans les établissements de santé, avec les interventions pharmaceutiques, comme ça a été dit. Et au moment de ces interventions pharmaceutiques, l'intervention pharmaceutique, c'est une proposition de modification, mais le médecin peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Et donc, on suit aussi par rapport à la coopération qu'on peut avoir dans une structure, ses taux d'acceptation, et meilleurs ils sont, et meilleur fait est la collaboration entre les équipes. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui le cœur de l'activité. Mais au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement, il y a de plus en plus, et la Haute Autorité de Santé nous incite vraiment à développer d'autres types de missions, notamment la conciliation médicamenteuse. Donc la conciliation médicamenteuse, c'est de pouvoir s'assurer lorsque le patient va rentrer dans l'établissement de santé, de la véracité des traitements qu'il prend réellement. Les médicaments prescrits par les différents médecins, médecins généralistes, médecins spécialistes, mais également s'assurer de l'automédication, parce que tous ces éléments-là peuvent jouer sur les interactions médicamenteuses. Et donc, ça participe à ce qu'on appelle le lien ville-hôpital. Donc, en général, cette conciliation médicamenteuse, pour s'assurer de son efficacité, il faut aller chercher trois sources. Donc, en général, on travaille beaucoup avec nos collègues pharmaciens d'officine, mais également le dossier pharmaceutique, aujourd'hui, qui est une source très intéressante, et puis les ordonnances, et surtout l'entretien patient. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, notre métier, il devient quand même très intéressant, c'est que on a une interaction même à l'hôpital de plus en plus forte avec les patients, et ces entretiens pharmaceutiques sont un élément très important et très apprécié d'ailleurs lorsque c'est mis en place dans les structures. Donc la conciliation médicamenteuse, et puis ensuite après ces entretiens pharmaceutiques où on va détecter potentiellement des choses qui sont optimisables, ce que recommande aujourd'hui la Société française de pharmacie clinique, c'est de mettre en place des plans pharmaceutiques personnalisés. C'est-à-dire, après avoir identifié les besoins pour le patient, c'est de mettre en place des solutions, ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc, on travaille avec nos équipes médicales pour essayer de proposer, par exemple, des programmes d'éducation thérapeutique pour améliorer la gestion des effets indésirables, etc., etc. Donc, c'est un autre versant qui est intéressant et qui est souvent engagé par des pharmaciens hospitaliers au regard de la spécialisation, mais qui nécessite ensuite un relais par les équipes de soins primaires, les pharmaciens d'officine, les médecins généralistes. Et aujourd'hui, en fait, on ne doit pas rester en vase clos, fermé. Oui. L'hôpital, c'est finalement un passage très bref. Par contre, que ce soit sur le plan médical ou sur le plan pharmaceutique, c'est un passage où il y a de la spécialisation et il faut qu'on soit en capacité de faire vraiment ce travail de spécialisation et ensuite de transmettre aux collègues du soin primaire.
J'étais en train de me demander sur cette conciliation, c'est ça hein, là, dont vous parliez. Est-ce que vous prenez en compte la... Le fait que certains patients, vous préparez leur traitement, ils les reçoivent et ils ne les prennent pas.
Oui, alors ce que vous dites là, en fait, c'est toute la problématique de l'adhésion thérapeutique. Ouais, ouais. Hein, voilà. Et donc, effectivement, ça, c'est un problème qui est majeur. C'est-à-dire que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup avancé sur la pharmacologie, les traitements, etc., etc., des médicaments de plus en plus efficaces. Donc ça, c'est très important sur l'impact, finalement, clinique de toutes les nouvelles thérapeutiques. Mais on a souvent sous-estimé le fait que c'est pas parce qu'on est dans ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire que tous les professionnels, les prescripteurs, les pharmaciens, etc., se mettent d'accord pour proposer l'ordonnance la plus efficace pour le patient. Encore faut-il prendre quand même l'avis du patient et s'assurer que ce qui a été proposé soit réellement mis en œuvre par le patient ou par une tierce personne si il a des problèmes d'autonomie, etc. Mmh. Et ça, aujourd'hui, la littérature nous dit que dans la maladie chronique, le manque d'adhésion thérapeutique peut monter jusqu'à 50%.
Ah oui,
donc c'est majeur. Et aujourd'hui, on estime que une augmentation de l'efficacité globale des thérapeutiques peut passer par une amélioration de l'adhésion thérapeutique. Mmh. Et donc tous les acteurs, notamment les pharmaciens hospitaliers, officinaux, etc., ont un rôle très important. C'est pas très compliqué. C'est pas de la haute spécialisation, mais c'est à appréhender avec chaque patient.
Parce que ce rapport-là, il repose aussi sur sur la confiance, hein, c'est ce qu'on comprend, mais sur la confiance que le patient va avoir dans le médicament qui lui est proposé aussi. J'imagine que parce qu'il peut douter, il peut craindre les effets secondaires, des choses comme ça, quoi. Donc, j'imagine que c'est en partie ce travail sur la confiance et sur éclairer ce qu'il y a dans le médicament, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de questions en ce moment qui se posent sur... il y a des personnes qui s'inquiètent de ce qu'il y a dans les médicaments. Donc, j'imagine que ça fait partie aussi de votre quotidien de devoir justifier pas seulement le traitement, mais comment ce traitement est préparé. Je vous remercie beaucoup tous les trois, Frédéric Évrard, Philippe Sestac et Marion Bourdoncle. Nous nous retrouvons dans une deuxième partie pour poursuivre ces échanges. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.